Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous réalisez la grâce qui est la nôtre de nous retrouver dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut pour être béni? Il faut un grand auditoire, il faut de grands prédicateurs. Qu'est-ce qu'il faut? Vous savez ce qu'il faut? Il faut une foi vivante. Alors on va lire un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, où nous allons voir une femme. Et vous savez ces histoires? Est-ce que tout ce que Jésus a fait a été écrit dans la Bible, quand il était sur terre? Non, c'est écrit que s'il avait fallu écrire tout ce que Jésus a fait, il aurait fallu certainement d'autres livres. Mais ce qui a été écrit, c'est utile. Donc on a besoin de l'entendre, on a besoin de le lire et on a besoin de se l'approprier. Donc dans Luc chapitre 8, au verset 41, cette histoire, je voudrais que plusieurs vous puissiez vous approprier cette histoire afin de faire la même expérience. Luc 8, 41. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et vous pouvez dire « Amen ». Parce que c'est une histoire extraordinaire qui nous montre comment quelqu'un peut être touché par la grâce de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Ce soir, si on est venu pour écouter une prédication, si on est venu pour être dans une église, ça ne sert à rien. Vous pouvez repartir, ça, franchement, ça ne me gênerait pas. Mais si vous êtes venu en disant « Je veux, moi aussi, faire la même expérience. Je veux être touché par la grâce de Dieu. » Est-ce que Dieu peut faire des différences? Et non, il n'y a pas de favoritisme, c'est écrit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Alors je ne sais pas pourquoi vous êtes venu. Peut-être vous êtes venu en espérant que les choses vont s'arranger. L'espérance est extraordinaire. C'est bien d'avoir de l'espérance. Je parle de l'espérance biblique. Il y a l'espérance du monde, où les gens ils espèrent que ça ira mieux. Vous voyez, ce n'est pas de l'espérance, c'est du doute complet, de l'incrédulité totale. Il y a l'espérance biblique qui sait que je sais que l'avenir est assuré par la grâce de Dieu. L'espérance, c'est par rapport à l'avenir. Mais la foi, c'est maintenant. Et il y a beaucoup de chrétiens, j'en parlais cet après-midi, ils croient, mais ils n'ont pas développé la foi. Et ce soir, vous pouvez faire une expérience avec Dieu. Des gens viennent à l'église, moi je le vois, pourquoi vous venez à l'église? Ben je viens, je suis content de voir les frères et les sœurs. Alors est-ce que c'est bien de voir des frères et des sœurs? Est-ce que ça fait plaisir de voir des frères et des sœurs? Ben oui, c'est super la communion fraternelle, mais c'est un bienfait merveilleux la communion fraternelle. On peut venir pour plusieurs raisons, on peut venir même pour servir. Est-ce qu'on peut venir pour servir dans une église? Et évidemment, je viens parce que je veux faire du bien aux autres. Il y a des gens, ils sont soucieux des autres. Il y a des gens, ils ont ce fardeau d'être en bénédiction aux autres. Ils viennent pour donner, ils ne viennent pas pour recevoir. Ils viennent pour donner, c'est tout à leur honneur. Mais quand on se retrouve autour de la parole de Dieu, il doit y avoir un moment où je sais exactement, j'ai compris exactement que le Seigneur, il voulait s'arrêter. Et cette histoire, elle est là, elle est extraordinaire cette histoire. Jésus a été souvent vers des gens, c'est lui qui les a touchés, c'est lui qui les a guéris. Il s'est arrêté un jour même devant un cortège funèbre, il a touché le cercueil. Je veux dire, bon, le gars, c'est sûr qu'il aurait du mal lui à le faire. Mais je veux dire, Dieu a guéri, ressuscité cet homme. Mais là, le Seigneur, entre guillemets, écoutez bien l'expression, il n'a rien fait. Il s'est arrêté parce qu'il a senti que quelque chose était sorti de lui. Donc toute la foi venait de cette femme qui avait dit « Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Moi, je le vois de plus en plus et ça me fait de la peine de plus en plus. Les gens, ils viennent à l'église en espérant que. Ils sont là dans l'espérance. Ils sont dans la religiosité. Ils espèrent que le pasteur va être en forme. Tiens, en fait, si le pasteur, il n'est pas en forme, est-ce que Dieu peut me bénir quand même? Mais bien sûr. Si ça dépendait de la forme du pasteur, il n'y aurait pas seulement de bénédiction. La bénédiction, elle dépend de votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Et la foi, alors, vous voyez là aussi, des gens, oh, mais monsieur Gault, moi, je n'ai pas la foi. Écoutez, la foi, écoutez bien. La foi que Dieu vous demande d'avoir, vous l'avez. Pourquoi ? Parce qu'on a tous reçu une mesure de foi. C'est écrit dans la Bible, ça ? C'est écrit quelque part ? Ou c'est écrit ? Hein ? Dans Romains chapitre 11, je crois. On a tous reçu une mesure de foi. Tous. Donc, si Dieu vous dit, il te sera fait selon ta foi, si vous commencez à dire, oui, mais moi, je n'ai pas la foi, ce n'est pas vrai. Dieu ne vous demandera pas quelque chose que vous ne pouvez pas faire. La foi que Dieu attend, vous l'avez, il vous l'a donnée, même si elle est toute petite. Et vous faites, est-ce qu'il faut qu'elle soit grande, la foi ? Non, puisque Jésus dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénevé, donc une petite graine de rien du tout. Donc la foi, Dieu vous l'a donnée. Vous pouvez dire merci Seigneur. Vous avez la foi qui vous permet de faire exactement la même expérience. Et si vous dites que vous n'avez pas la foi, moi je vous dis que vous faites Dieu menteur et ça ne va pas vous servir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Il faut bien comprendre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et je viens ce soir, je veux... Après, on peut venir pour la communion fraternelle, parce que après tout, on a fait son expérience avec Dieu. On peut venir, comme je le disais, pour servir. Mais si vous êtes malade, Dieu veut vous guérir. Vous vous rappelez, on a lu mardi, si vous étiez là, on a lu un texte dans Luc au chapitre 5. Moi, j'ai eu besoin de lire ce texte. Regardez avec moi. Dans Luc au chapitre 5, on avait lu ce texte où Jésus se retrouve avec des pharisiens, des docteurs, des gens qui avaient besoin aussi. Puisque, alors là, il est écrit, Luc 5, verset 17, « Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. » Et dans la version Darby, il est dit, « Et le Seigneur était là pour les guérir. » Le Seigneur était là pour les guérir. Bon, là, vous avez quelle version vous avez ? La seconde ? Bon, il est dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. C'est ça. Si quelqu'un a la Darby, vous le vérifierez chez vous, il est dit, et le Seigneur, il était là pour les guérir. Et quand on voit comment ils sont passés à côté, à tel point que d'ailleurs ça s'est mal passé, ils ont commencé à murmurer, parce que Jésus a dit certaines choses, et ils sont vraiment passés à côté de la guérison. S'il est écrit que Jésus était là pour les guérir, c'est qu'au milieu d'eux, il y avait quelqu'un de malade, au moins un. Eh bien, ce pharisien, parce que pharisien, pasteur, machin, on est tous pareils. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et ils étaient là pour rien. Combien, on est dans Luc, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Regardez ce gars qui est dans le temple. Et c'est Jésus qui donne la parabole. Vous savez, ce sont des textes, ça vaudrait la peine qu'on écoute. Ce matin, hier soir, je lisais dans un psaume quand il est dit « J'écouterai ce que dit Dieu ». Les gens, ils viennent à l'église, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Vous connaissez la parabole du publicain et du pharisien. Voyez Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Est-ce que c'est bien ça ? Eh oui, c'est bien. L'un était pharisien, donc religieux, et l'autre pas. Le pharisien, debout, priait. En plus, il était debout. Il priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Quand on commence à se comparer aux gens, croyez-moi, ce n'est pas bon. « Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Vous connaissez la suite, hein ? Ça représente les gens qui vont au temple. Pourquoi ? Pour rien. Pour se faire voir, exactement. Ça ne sert à rien. Et il y a des gens, ils sont là, ils vont à l'église, ça ne sert à rien. Ils prient, ils jeûnent, ils chantent, ils lisent la Bible, ça ne sert à rien. Il y a des exemples comme ça, il y a plein d'exemples. Et c'est dans la Bible, le Seigneur l'a relevé, dans l'Ancien Testament c'est encore plus sévère. Pourquoi ? Eh bien c'est pour nous indiquer que la religion, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, il y a des gens qui lisent la Bible, ça ne sert à rien, c'est de la superstition. Voilà, ils sont là dans la tradition, et Dieu pourrait nous poser la question, comme un jour il a posé la question à Élie. Vous vous rappelez quand Élie était dans le désert, Dieu va à sa rencontre, il lui dit, qu'est-ce que tu fais Élie ? Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ? Et si ce soir le Seigneur nous posait la même question, qu'est-ce que tu fais ici, Lucas ? Qu'est-ce que tu fais ici, Olivier ? Et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais ici ? Et si on était honnête, il faudrait être capable de dire, mais je suis là, j'espère que... Mes frères et sœurs, il y a des moments où il ne faut pas se louper, parce que le Seigneur y passe. Est-ce que vous comprenez ? Là, le Seigneur passait. Cette femme, ça faisait 12 ans qu'elle souffrait. 12 ans qu'elle avait tout essayé. Bon, ça représente les gens dans le monde qui essayent. Il y a des gens qui essayent. Ah, oh, je vais essayer la religion. Il y a une dame dimanche qui me disait, ah, oh, ben, on va essayer la prière. Je dis, mais il ne faut pas essayer la prière. C'est pas bien de parler comme ça. On va essayer la prière. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est grave. On n'essaye pas la prière. La prière, c'est Dieu qui l'a instituée. Essayer la prière, ça voudrait dire, est-ce que c'est vrai que Dieu, est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est bon ? La prière, c'est Dieu qui l'a instituée. C'est comme la Sainte Cène, c'est archi sérieux. On n'essaie pas la prière, on prie le Seigneur du ciel et de la terre parce qu'il entend la prière. En tous les cas, il y a des moments où il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas passer à côté et il ne faut pas perdre courage parce que le Seigneur, il passe et son œuvre, elle est parfaite. Et la parole de cette femme qui dit, mais si je pouvais toucher le bord de son vêtement. Vous savez, le bord de son vêtement, si vous connaissez bien la Bible, ça veut dire que Dieu, même le bord de ses voies, c'est Job qui parle du bord de ses voies. Nous ne connaissons que le bord de ses voies. Mais c'est pas grave, ça suffit. Ça suffit. Même si vous ne connaissez pas grand-chose de Dieu, vous savez le peu que vous connaissez, ça suffit. Vous savez qu'il est mort sur la croix et qu'il a tout accompli. Tout. Vous avez chanté des cantiques merveilleux. Ils n'étaient pas beaux les cantiques qu'on a chantés. Mais rien que les cantiques, ça devrait suffire à nous donner la bénédiction. Si je peux toucher le bord de ses voies, mais ça veut dire, mais Seigneur, le bord de tes vêtements, ça suffit. Je veux croire que y a, tout a été accompli au calvaire. Tout est accompli pour que vous ayez la paix. Lucas, vous parlez qu'on peut repartir consolé dans la joie. Oui, on peut repartir dans la joie. Vous croyez que cette femme, elle est repartie dans la joie, en fait ? Bon, elle était toute tremblante quand Jésus s'est arrêté. Bon, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que Jésus s'est tourné vers elle, qu'elle s'est sentie coincée ? Est-ce que c'était normal qu'elle soit tremblante ? Mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais comment elle a dû rentrer chez elle, d'après vous ? Non mais je pense qu'elle a dû rentrer archi heureuse. Ça devait chanter. Je ne sais pas si elle connaissait quelques cantiques, mais elle devait chanter. Mais mes frères et sœurs, on peut repartir chez soi avec la même grâce. Seigneur, tu me guéris. Vous croyez que Dieu veut guérir ce soir ? Mais croyez-le. Vous croyez que Dieu peut libérer ? Mais il faut marcher par la foi. Alors vous avez vu ce qui se passe ? Vous avez lu avec moi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu la scène ? Il y a une grande foule qui suit Jésus. D'accord ? Elle se retrouve en delà de la foule. Elle ne veut pas passer à côté. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remonte la foule. D'accord ? Elle remonte de la foule, je ne sais pas comment elle a dû faire. Pardon, excusez-moi, il faut que j'avance. Excusez-moi. Non, comment ça a dû se passer ? Comme ça ? Comment elle a dû faire, la dame ? Comment elle faisait, d'après vous ? Elle dit, non, elle devait avancer. Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur. Non ? Oui, on s'en doute. Elle devait être fatiguée, parce que ça fait 12 ans qu'elle était malade. Elle était malade. Mais, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas rejoindre Jésus. Il y a des gens, oh, je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus, oh, je peux pas aller à l'église, je peux pas lire. C'est pas vrai. Quand on veut quelque chose, je peux vous dire qu'on le fait. Croyez-moi. Cette femme, elle remonte la foule. Elle avait fixé son attention sur la puissance de Jésus, le bord de ses vêtements. Et quand elle arrive à Jésus, elle a dû toucher peut-être... Moi, j'ai vu une photo, j'ai vu une peinture où on voit la femme qui est à genoux et qui touche, c'est magnifique, on voit la main qui touche la frange, vous savez, de la robe du Seigneur, et on voit dans les yeux qu'elle vit quelque chose. Je ne sais pas si elle était à genoux, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et Jésus s'arrête. Et il dit, qui m'a touché ? Et puis il dit, madame, mais tout le monde te touche. Tout le monde te touche et tu demandes qui t'a touché ? Mais là, mes frères et sœurs, elle est là l'explication. Combien de gens, chaque dimanche, chaque réunion, touchent le Seigneur ? Vous comprenez ce que je veux dire ? On va à l'église, on chante des cantiques qui nous font du bien. On se retrouve dans la présence de Dieu. On prie. Mais c'est superstitieux. C'est au cas où. Et cette histoire, Dieu l'a voulu dans la Bible pour que l'on comprenne bien que c'est le danger de tous les chrétiens. Tout, vous avez lu avec moi? On le relit, le verset hein? Luc 8, 45. Jésus dit, qui m'a touché? Alors, rendez-vous compte, tout le monde s'arrête. Tous s'en défendaient. Pierre, qui était spontané, et ceux qui étaient avec lui dirent, mais maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Ça veut dire quoi? Que tout le monde le touchait, mais tous les gens qui étaient à sa portée, ils le touchaient, mais ça ne servait à rien. Et c'est l'image de réunion pour plein de gens. Ils viennent, ça ne sert à rien. Ils touchent le Seigneur, ça ne sert à rien. Ils prennent la Sainte-Cène, ça ne sert à rien. C'est religieux, c'est superstitieux, c'est routinier. Ils ne croient pas. Mes frères et sœurs, vous pouvez toucher le Seigneur. Vous pouvez le toucher, croyez-moi, il s'arrêtera. Vous pouvez être guéri maintenant, vous pouvez être guéri ce soir. C'est vrai qu'il y a la foule, et la foule, elle revient souvent, la foule. La foule de choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir du monde. Hein. Croyez-moi qu'il y en a des choses qui nous empêchent de prier vraiment, de chercher Dieu vraiment, de chercher à le toucher vraiment. Qu'est-ce qu'il y a qui peut nous empêcher de prier? Moi, il y a des gens, je n'ai pas le temps de prier. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? L'autre jour, je discutais avec un monsieur qui vit dans le concubinage. Et il me dit, j'ai dit, mais vous devriez vous marier si vous voulez obéir à Dieu. Oh, j'ai pas le temps d'aller à la mairie. Elle lui dit, ouais, t'as pas le temps d'aller à la mairie. J'ai dit, vous croyez que c'est bien devant Dieu? Vous croyez que c'est honnête devant Dieu? J'ai dit, vous prenez pas le temps de lire, là, de regarder les infos une heure par jour, si. Vous avez pas, vous voyez? J'ai dit, je vais vous dire la vérité, vous voulez pas obéir. Vous voyez, c'est ça la foule de choses qui nous empêche d'obéir. C'est ridicule de dire ça. Parce que laissez-moi vous dire qu'on peut trouver du temps pour se tenir devant Dieu. Cette femme, elle n'a pas dit non, je suis trop fatiguée, j'y arriverai pas, de toute façon, il y a tout. Parce qu'elle, il y avait vraiment un obstacle. Je ne sais pas s'il y a un obstacle, c'est peut-être la télé, c'est peut-être, je ne sais pas, une activité. La paresse, est-ce que la paresse, ça peut être une foule de choses? Ben ouais, la paresse, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les obstacles? Allez-vous m'aider à bâtir la prédication? Aidez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme foule de choses qui nous empêchent de nous approcher de Dieu? Bon, il y a l'incrédulité. Les soucis. Les activités. Plein d'activités. Même religieuses. Les soucis, c'est quelque chose qui empêche. Voilà. Mais oui. Je ne sais plus où j'avais lu une prédication d'un homme qui avait expliqué un jour qu'il y avait un aigle qui était attaché. Il était attaché juste par un petit fil. Il ne pouvait pas s'envoler. Un petit fil à la patte d'un mètre. Il était coincé. Un fil. Et vous voyez, des fois, il ne faut pas grand-chose. Et le diable, il s'en fiche. Il s'agit qu'il y ait une petite chose qui m'empêche de toucher le Seigneur. Et ça, c'est une question de grâce. J'ai besoin de me retrouver dans sa présence. Et arrêtez, je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui... Moi, je les suis, ça fait 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas fait un centimètre. Ils sont toujours dans le doux, dans l'incrédulité, ou dans les activités, ou dans la paresse, ou dans les soucis. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Quand vous faites confiance à Dieu, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Écoutez-moi bien. Quand vous faites confiance à Dieu, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Parce que vous savez... que si vous l'invoquez, il agira. Mais il faut obéir. Il faut obéir. Alors les obstacles, il y en aura toujours. 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 Et si demain vous étiez à 5 mm du Seigneur, croyez-moi, la semaine prochaine, il risque d'y avoir de nouveau 50 obstacles. Il faudra remonter la foule. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de dire, mais tiens, moi je vais m'approcher de Dieu. Moi, vous savez, ça fait 33 ans que je suis pasteur. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, le combat que c'est parfois. Le nombre de fois où j'ai dû me lever le matin à 5h, à 4h, et j'ai dit, je vais passer 2 heures dans la présence de Dieu. Si vous saviez les expériences que j'ai faites. Et pourtant, quand le réveil sonnait, on n'était pas très copains. Mais je crois que ça vaut la peine des fois de dire je vais passer 2 heures dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent regarder un bon match de foot ou un bon match de rugby, enfin des bons matchs de foot, je ne pense pas qu'il y en ait, mais un bon match de rugby, si ça existe, est-ce qu'ils ne vont pas trouver les 2 heures pour le regarder? Est-ce qu'on ne va pas les trouver les 2 heures? Bien sûr. Vous voyez, donc c'est une question d'honnêteté. Et si on n'est pas honnête, eh bien, on est hypocrite. Ça, c'est la palisse qu'il aurait dit. Et à un moment donné, il faut dire non, je veux, moi aussi, remonter la foule. Je termine avec cette question. Combien de temps il faut pour être béni? Combien de temps il faut pour être sauvé? Combien de temps il faut pour être libéré? Est-ce que vous croyez dans cet évangile de la grâce où Dieu agit instantanément? Est-ce que vous y croyez? Moi, je vous conseille d'y croire, pas parce que je vous le dis. Je vous conseille d'y croire parce que Dieu le dit. Et qu'instantanément, il peut bénir quelqu'un. Cette femme, combien de temps ça a mis pour guérir? De suite, elle était guérie. Parce qu'elle était en contact avec Dieu. Et le Seigneur s'est arrêté. Et si vous voulez que Dieu s'arrête, il faut que vous puissiez dire, bon, je vais, mais quand même, je suis capable de regarder amour, gloire et beauté. Je ne sais pas si ça existe, ça toujours. Les feux de l'amour, ça existe les feux de l'amour? Vous le savez, certains? Non, mais tant mieux. Mais, non, mais sérieusement, on est capable, chacun avec ses difficultés, de prendre du temps, et on n'est pas capable de remonter une foule pour dire il faut absolument que je fasse une expérience avec Dieu. Parce que plus vous ferez des expériences, quand même, votre foi, elle grandira. Quand vous verrez que Dieu est intervenu dans tel domaine, que Dieu est intervenu dans tel domaine. Quand je suis rentré dans le ministère, bon, ma femme me dit, tu sais Gérard, on ne pourra pas faire les mêmes dépenses qu'avant, on ne pourra pas acheter les mêmes choses qu'avant, il te faut, parce que c'est elle qui gérait la bourse. Elle me dit, écoute Gérard, on va acheter un... Je voulais acheter un survêtement. À l'époque, j'étais jeune, j'étais mince, et je voulais acheter un survêtement, un beau survêtement. On va au magasin, je relève. Quand j'ai vu le prix, je dis, vous savez, des fois, on veut un tel truc. Et ils m'ont dit, non, papa. Papa, Gérard, je dis, écoute, Seigneur, ça fait rien, c'est pas grave. C'était le samedi. Le dimanche soir, on va manger chez mon beau-frère. Et en partant, il me dit, en fait, Gérard, j'ai acheté une survêt. Il met trop petit. Tu le veux pas? Alors moi, connaissant ses goûts, je dis, non, c'est pas la peine. Tu veux pas le voir? Ah ben si. Il me l'ouvre, c'était exactement... Exactement le truc que je voulais acheter. Et à l'époque, j'en suis sûr, ce n'était pas donné. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu regarde au cœur. Vous le croyez que Dieu regarde au cœur? C'est écrit combien de fois dans la Bible? Et quand on est vrai, eh bien Dieu agit. Et ce soir, si vous dites, Seigneur, je suis vrai, moi aussi, je vais remonter la foule. Il y a ça, ça. Si c'est l'incrédulité, eh bien lisez la parole. Lisez-la et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être délivré de l'incrédulité. C'est terrible l'incrédulité, de lire la Bible et de ne pas croire. Moi, j'ai vu une dame ici qui est venue pendant 15 ans. 15 ans. Elle m'a dit, monsieur, je ne crois pas que Dieu m'aime. Alors j'ai dit, mais Dieu, il vous aime. Vous faites Dieu maintenant, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que c'est écrit que Dieu aime tous les hommes? Et voilà, c'est ça. Il faut, Dieu vous aime. Je ne sais pas comment vous êtes, dans quel état vous êtes. Dieu, il vous aime. Il veut s'arrêter. C'est à vous. Vraiment, de dire, ce soir tu m'as donné un rendez-vous, eh bien moi j'ai une foule de trucs, il y a ça et ça qui m'empêche. Il y a peut-être ce problème de paresse, eh bien je vais régler le problème de la paresse. Je vais régler le problème peut-être de la rancune. Est-ce que la rancune, ça peut nous empêcher de nous approcher de Dieu? Eh oui, je vais régler le problème peut-être de l'amour de l'argent. Il y a des gens, l'avarice les a détruits. Ils vont à l'église depuis 5 ans, depuis 10 ans, ils sont toujours avares. Ils avaient un sale caractère avant leur conversion, ils ont toujours un sale caractère après qu'ils aient donné leur cœur au Seigneur. Il y a des victoires qui n'ont pas été prises. Pourquoi? Eh bien parce que les gens ne veulent pas. Jésus ne vous forcera pas. Je me rappelle un jour, il y avait un monsieur qui priait, « Le Seigneur, force-moi à faire ta volonté. » J'ai été lui dire, « Écoutez, cette prière, Dieu ne l'exaucera pas. Dieu ne forcera jamais. » Vous croyez que Dieu va vous forcer? Non, il ne vous forcera jamais. Dieu, il vous laissera libre. Et si vous êtes faible, si vous êtes malade, laissez-moi, il sera à attendre que vous le rejoigniez. Vous pouvez le rejoindre, le Seigneur. Alléluia. Il a tout accompli. Le bord de ses vêtements, c'est ça. C'est que sur la croix, il a tout accompli. Alors moi, j'aimerais qu'on puisse prier simplement. Fermez les yeux quelques instants. Vous ne voulez pas? Vous n'avez pas envie de faire une expérience, de repartir, mais guéri, délivré, fortifié? En tous les cas, si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez le faire chez vous, parce que peut-être Dieu vous attend chez vous. Fermons les yeux quelques instants. Vous savez, il y a des moments où on est là, dans la présence de Dieu, Dieu nous a parlé. Et Dieu va nous éprouver. Peut-être qu'en rentrant chez vous, vous allez, mais c'est vrai, je suis capable de rester jusqu'à minuit devant la télé. Et je ne suis pas capable de passer une heure seul dans la présence de Dieu, alors que toute la Bible nous indique qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors si Dieu est en train de vous montrer quelque chose, faites-le, saisissez-le. Dis Seigneur, tiens, tu es en train de me montrer ça. Alors que le pasteur est en train de parler, oh, tu es en train de me montrer ça qui ne va pas. Tu es en train de me montrer, tiens, oui, mon avarice. Je n'ai jamais donné un sou pour l'Église. Et oui, c'est peut-être, moi, je parle, c'est pas mon habitude de parler de l'argent. Mais peut-être quelqu'un est concerné par ça. Alors prions quelques instants. En tous les cas, une chose est sûre, Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous ne pourrez pas un jour vous dire, vous présenter devant Dieu et dire, Seigneur, je te priais et tu ne m'exaucais pas. Ne vous imaginez pas un instant que ça sera possible. Si vous le priez de tout votre cœur, si vous obéissez, il se laissera trouver. Notre Père, notre Dieu, oui, tu nous as laissé ces paroles pour nous montrer que les hommes étaient capables de te toucher aujourd'hui par la foi. Cette foi que tu nous as donnée, Seigneur, combien nous te remercions de nous l'avoir donnée, pour que nous puissions saisir dans ta parole et obtenir les victoires, les délivrances, les guérisons, les bénédictions, les faveurs que tu ne cesses de répandre sur tous les pécheurs. Et si cette femme n'avait même pas le droit de s'approcher de cette foule même à cause de sa perte de sang, tu l'as bénie. Seigneur, nous pouvons tous nous approcher de toi. Et je te demande de délivrer ce soir celui ou celle qui n'arrive pas à s'approcher de toi, afin qu'elle ait cette victoire, afin que cette personne ait cette joie d'aimer se retrouver dans ta présence. Car je le crois, Seigneur, que tu es un Dieu de délivrance, de guérison, de salut, que tu fortifies. Oui, Seigneur, nous pourrions tous ce soir repartir comme cette femme, heureuse d'avoir été au bénéfice de la faveur de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.